Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Jérôme Sillon.
L'After Live en direct du stade Geoffroy Guichard pour le barrage d'accession à la Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice. Un match qu'on va vivre en intégralité sur RMC avec Edouard Jay et avec Maxime Chanot. On n'oubliera pas Roland Garros, évidemment, avec l'entrée en liste du numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Mais les joueurs entrent sur la pelouse, Edouard.
Exactement, avec des fumigènes, tiens. Côté sud, on chante toute la soirée et on vous met le feu. Ben voilà, on vous met le feu avec les fumigènes en face à un typhon papier, comme on dit. C'est-à-dire que les spectateurs ont eu sur leur siège ou un petit papier vert, un grand papier même, ou un grand papier blanc. Et du coup, on a un damier vert et blanc en face de nous. Et puis, la panthère dessinée là aussi en typhon papier côté Cop Nord. Voilà pour... cette ambiance, on va dire, musicale, mais aussi en photo, en image, c'est magnifique.
C'est beau Maxime, non ? Ça donne envie quand on est joueur.
Bah, c'est magnifique, la seule problématique, Jérôme, c'est que je ne suis plus joueur. Mais c'est vrai que si j'étais encore sur les terrains, ça te motive pour faire un grand match. Mais bon, on le sait, hein, Geoffroy Guichard, c'est quand même une ambiance spéciale. Et il le démontre encore ce soir, les supporters stéphanois.
À quel point c'est un avantage, sachant que Nice n'aura pas cette chance-là, puisque Nice jouera le barrage retour à la maison, mais à huis clos, sans le moindre spectateur.
Ah bah c'est sûr que c'est, je le répète, mais c'est un avantage. Hein. C'est un avantage, surtout dans les moments où en fait on doit pousser, où les joueurs stéphanois doivent pousser. C'est vrai que d'avoir la bronca entre guillemets qui te soulève, hein, qui te permet de faire l'effort supplémentaire. Voilà, t'as envie de briller pour tes supporters, t'as envie aussi de briller devant tes familles, parce qu'en règle générale, sur des matchs comme cela, les familles des joueurs sont là. Donc non, et bah, C'est de pouvoir jouer dans un stade comme celui-ci avec une ambiance comme celle-là, je peux te dire que c'est là que je regrette de ne plus être joueur de football professionnel. Hein.
On va vivre une très très belle soirée en attendant sur RMC ce Saint-Etienne-Nice, ce barrage aller donc d'accession en Ligue 1 avant le coup d'envoi. On retourne à Roland-Garros sur le camp Philippe Châtrier, l'entrée en lice du numéro 1 mondial, Eric Salio.
Et il n'est pas là pour rigoler, Yannick Sinner. Il respecte tous ses adversaires. Il mène déjà donc 2-0 face à Clément Tabur, qui à mon avis, il ne le connaissait pas il y a encore 4 jours. Mais ils ont dû faire du travail vidéo. Et Clément Tabur a une balle de jeu tout à l'heure. Je vais surveiller sa réaction si jamais il parvient à grignoter un jeu. Parce que je pense qu'en entrant sur le coup, il a qu'une trouille. C'est de prendre une bulle, comme on dit. Parce que Sinner, il est là pour gagner le tournoi et il démarre pied au plancher. Donc 2-0 pour Yannick Sinner sur le Châtrier. Clément Tabu est au service, il y a 40 ans.
Et nous, on vous rejoint, si vous nous rejoignez sur RMC, on vous rappelle la composition des Verts. D'abord, avec toi, Edouard.
Gauthier Larsonneur dans les buts, il aura en plus le brassard de capitaine. La défense de droite à gauche, Kevin Pedro, Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer et Denis Appia. Au milieu, Luan Gadek Bekou, Justine Boyakier et Abdoulaye Kanté. Voilà pour les trois du milieu et les trois devant qui sont inamovibles en ce moment. Car en forme, Lucas Tassin en pointe, le Géorgien Zurico Davitashvili côté gauche et son pendant à droite, Irvine Cardona.
La composition de l'OGC Nice, Dante n'est pas sur la feuille de match mais il est présent ce soir à Saint-Etienne. Maxime Dupé, lui, est resté auprès de sa femme qui va accoucher. Tom Louchet est absent et Liwayi est suspendu. Dans le but, Yevan Diouf, les trois défenseurs centraux, Antoine Mendy, Djoumaba, Kojo, Opong. Dans les couloirs, Jonathan Clauss et Melvin Barr, Boudaoui, Morgan Sanson dans l'axe du milieu de terrain. Thiago Gouveia préféré en attaque à Kyle Boudache par exemple, ou encore à Kevin Carlos ou Isaac Janssen qui sont sur le banc. Gouveia va accompagner Mohamed Ali Chou et Sofiane Diop.
Le coup d'envoi va être donné par les Niçois. C'est Benoît Bastien qui officie au milieu. On rappelle qu'il y a la VAR dans ces barrages pour cette division de Ligue 2 qui n'en a pas. Et c'est parti donc pour le coup d'envoi de cette partie donnée par les Niçois et Morgan Sanson.
Allez, un long dégagement tout de suite pour aller là-bas sur le côté gauche. Tiens, Thiago Gouveia qui s'est positionné sur le côté gauche sur ce coup d'envoi. On va surveiller un petit peu comment sont positionnés les Niçois. Est-ce que c'est Sofiane Diop qui va aller sur le côté droit? On va voir ça dans quelques instants. Le ballon perdu par Hicham Boudaoui avec la récupération et tout de suite une percée du côté stéphanois avec un ballon pour David Tajvili sur le côté gauche. Denis Appia, arrière gauche ce soir qui se propose. Le centre pied gauche de Denis Appia s'est dégagé par Melvin Barr avec la tête derrière. La tête de Thiago Gouveia qui arrive jusqu'à Yevan Diouf. C'était déjà un peu risqué, mais c'est bien capté par le gardien niçois qui s'est fait la boule à zéro carrément.
Exactement.
C'est dit, il fait trop chaud.
Exact. Alors à noter une petite particularité, l'arbitre est au niveau de la tenue, alors l'arbitre est légèrement jaune et jaune qui tire un petit peu sur le vert. Et du côté de Gauthier Larcheneur, on est totalement jaune. Voilà, d'habitude, il y a des couleurs vraiment différenciées de façon plus marquée. Mais là, voilà, on va quand même noter. Alors, ça va pas poser problème, bien évidemment, mais c'est à noter. On se faisait la réflexion justement dans cette fameuse réunion H-2 où on apprend les petites infos diverses et variées pour le match, notamment les pauses fraîcheur que va sûrement accorder l'arbitre parce qu'il fait assez chaud, même s'il est bientôt 21h.
Allez, le ballon pour Denis Sapia avec une passe mal assurée en direction de David Tachvili. 0-0 et 2 minutes de jeu ici à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Nice. Maxime.
Oui, et à noter aussi que le GC Nice s'est positionné avec 4 défenseurs. On attendait plutôt une défense à 3 et finalement Mendy qui se retrouve arrière droit. C'est Jonathan Clauss qui joue un peu plus haut. Et ça permet d'en fait se positionner en 4-2-3-1. On s'attendait pas forcément à ça. On pensait que Jonathan Clauss et Melvin Barthes seraient les deux pistons. Et bien Claude Puel a un petit peu changé. On verra si ça va continuer pendant le match. Mais en tout cas, sur ces deux premières minutes, les Niçois jouent de cette manière.
Ouais, on va voir effectivement si c'est seulement en phase offensive ou si même quand le ballon est perdu, ça perdure donc cette position. Le ballon récupéré par Julien Le Cardinal et les Stéphanois avec ce ballon pour Kevin Pedro, le jeune latéral droit formé à l'AS Saint-Etienne qui passe dans le camp niçois. Devant lui, Ivan Cardona. Finalement, on repasse par Augustine Boakier avec un ballon dans la profondeur en direction de Lucas Tassin. Ballon qui a été dégagé par la défense centrale et effectivement, on est bien sur une ligne de 4 défenseurs pour l'instant. Ballon pour Morgan Sanson.
Avec un Niçois à terre, mais pour l'instant, Benoît Bastien, il l'a regardé derrière, mais il le laisse. Non, il va arrêter. Il va arrêter le jeu.
Hicham Boudaoui est au sol. Hein,
on s'affole du côté des collègues qui sont juste autour.
Oui, Hicham Boudaoui qui visiblement a pris un coup et Benoît Bastien qui demande au corps médical niçois de faire son entrée sur la pelouse pour venir prendre de ses nouvelles. D'ailleurs, on en profite pour signaler qu'en raison de la chaleur, Edouard, on aura le droit de se désaltérer également durant cette rencontre.
Normalement, ouais, une pause par mi-temps.
Ah oui, d'accord, ok. Il a pris l'épaule. Il a pris l'épaule de Kanté Boudaoui. Ah ouais, en pleine joue, en plein visage, Maxime. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir l'image.
Je la revois en même temps que vous, messieurs. Oui, il a pris un vrai KO. Hein. En fait, il regarde absolument pas le joueur adverse. Il est absolument focus sur le ballon. Et il y a le joueur stéphanois qui arrive, comme tu l'as très bien dit, et qui lui percute la mâchoire avec son épaule droite. C'est impressionnant. Et il tombe au sol et j'ai l'impression que sa tête même percute le sol. Ouais. Il est complètement KO, le joueur niçois.
Oui, et c'est toujours affolant quand on voit justement l'affolement d'un coéquipier qui était à côté, qui demandait au médical à venir assez rapidement. Le service médical qui est toujours auprès du joueur avec Benoît Bastien qui est juste à côté. Allez, ça va le faire. Il se relève, un petit peu d'eau, un petit coup d'éponge magique. Et il va pouvoir repartir. Mais ça nous a fait deux petites minutes d'arrêt de jeu là, entre la deuxième et la quatrième minute. Donc, et Claude Puel qui en profite pour recadrer et redire un petit peu un certain nombre de consignes, notamment à Jonathan Clauss.
4 minutes de jeu à Geoffroy Guichard, 0-0 entre Saint-Etienne et Nice. Le jeu va reprendre dans quelques instants. Mais avant que ça reprenne, on fait un petit détour par Roland Garros avec Eric Salio. On fait le point sur le match de Yannick Sinner.
18 minutes de jeu sur le Châtrier, 2-1 pour Yannick Sinner. Vous avez compris, Clément Tabur, 171e mondial, a pris un jeu et croyez-moi, et oui, il est allé chercher. Hein. Il déploie beaucoup d'énergie pour contrer le rythme infernal de Yannick Sinner. Et je me mets à la place des spectateurs qui n'ont jamais vu jouer Yannick Sinner. C'est vrai, il passe pour un robot, hein, tu connais un peu le tennis. Mais quand on le voit évoluer ici, on se dit, mais ce mec, c'est une machine. Mais on dit ça avec beaucoup d'admiration parce que c'est de la haute précision. À noter que vous vous souvenez de sa tenue verte de l'an passé qui n'était pas d'un meilleur goût. Hein. Cette année, c'est un bleu ciel, un bleu gris. C'est magnifique.
Bon, on regardera ça évidemment sur le site rmcsport.fr un peu plus tard parce que là, on est occupé également, Geoffroy Guichard, par ce barrage aller entre Saint-Etienne et Nice. 0-0, 5 minutes de jeu et le ballon joué très vite par Abdoulaye Kanté sur son côté gauche avec Denis Sapia qui a été rarement titulaire cette saison, qui a perdu sa place, Edouard, mais qui profite de l'absence de Benold.
Exactement, et là on a essayé d'accélérer le jeu, toujours 0 à 0, 6 minutes de jeu, mais on va bien compter deux grosses minutes de temps additionnel. On essaye avec Zorico Davitashvili là sur le côté gauche. Est-ce qu'il va avoir le soutien de Gadek Bekou? Est-ce qu'il va pouvoir lui redonner? Mais finalement il y aura une sortie en 6 mètres.
Ouais, le ballon était sorti alors que Davitashvili lui il s'est un petit peu enflammé, il a enchaîné, il a continué son action alors que le ballon était sorti en dehors des limites du terrain. Zorico Davitashvili, évidemment, ce sera l'un des joueurs à suivre, élu meilleur joueur de Ligue 2, Maxime, et c'est vrai que Davitashvili en Ligue 2, c'est presque dommage de le voir à ce niveau.
Ouais, c'est un super joueur, tu l'as dit, meilleur joueur de Ligue 2. C'est aussi grâce à lui que Saint-Etienne se retrouve dans cette situation de pouvoir potentiellement monter en Ligue 1. Alors moi j'ai joué contre lui aussi en équipe nationale, contre la Géorgie avec le Luxembourg, et je peux te dire que c'est un très très bon joueur en effet.
Allez, le ballon qui est récupéré par les Niçois avec Mohamed Ali Chaud. On est tout près de la surface de réparation stéphanoise avec Sofiane Diop, Melvin Barr. Ça combine sur le côté gauche. Sofiane Diop se propose. Il est repris par le Cardinal. La très bonne défense debout du défenseur central, l'ancien joueur du Stade Brestois. Et la relance stéphanoise qui est vite avortée par cette passe ratée en direction de Lucas Tassin.
Ah oui, là c'est un geste technique manqué. Bel et bien, et alors qu'il avait, il était à peu près tranquille pour, alors que Boudaoui n'a pas l'air d'être bien remis de son chaos.
Ah, ce serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour le gym, tellement.
Les Niçois ont mis la balle dehors, en l'occurrence c'est Opong, je crois. Il n'a pas l'air d'être bien dans son assiette. Est-ce qu'en plus du coup il y a la chaleur? Et là on voit Jean-Marc Laborderie, le médecin niçois.
On n'est pas loin du protocole commotion là, Edouard.
Ça ressemble un peu à une commotion cérébrale.
Ouais, et ça en principe, vous savez que
d'ailleurs,
je trouve dommage qu'on n'applique pas le même règlement qu'au rugby en fait. En cas de commotion, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus rare en foot, mais au moins que tu puisses faire un remplacement temporaire, le temps de voir si le joueur est capable de reprendre, ce serait pas mal, non?
Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça permettrait justement de pouvoir un petit peu fluidifier le jeu, parce que, et puis surtout de protéger le joueur qui a reçu le coup. Après, on sait très bien, sans critiquer l'arbitrage français au niveau footballistique, que l'arbitrage rugby est quand même un poil au-dessus, j'ai l'impression, dans certaines décisions, dans certaines avancées technologiques. Je pense évidemment à la VAR, où c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux au rugby qu'au football, par exemple. Donc voilà, que l'arbitrage français, sans le critiquer, bien évidemment, peut-être après, et regarde ce qui se fait au rugby, parce que tu l'as très justement dit, ça fonctionne très très bien dans ce sport.
Alors, Claude Puel est en train de demander à Julien Sablé, et il va y avoir du changement. Boudaoui va vraiment sortir à 8 minutes de jeu après le coup pris dans le jeu, un contact avec une épaule très haute qu'il a mis KO, et Boudaoui là qui peut vraiment pas rejouer.
Ouais, alors plusieurs possibilités s'offrent à Claude Puel. Évidemment, il y a le Belge Charles Van Hout, il y a également Abdoul Samed, mais il y a surtout Djibril Koulibaly qui était titulaire. Le joueur formé à l'OGC Nice, titulaire en finale de la Coupe de France vendredi soir, qui avait marqué d'ailleurs son premier but chez les pros. Et il y a des chances que ce soit lui. Je crois que c'est lui qui a été rappelé sur le banc. Alors que Abdoul Samed, lui, prend des nouvelles de Boudaoui en ce moment même. Boudaoui qui n'est pas encore complètement sûr de sortir. Il tente de récupérer là, Edouard, mais que c'est difficile. Ouais. Pendant ce temps-là, le jeu a repris avec un long ballon de Morgan Sanson en direction de Gouveia, avec Melvin Barr. Sans en première intention, les Niçois sont à 10 et le jeu peut se poursuivre.
C'est terminé. Alors, je regarde ce qui se passe sur le banc.
Ouais, avec un ballon en direction de Cardona maintenant, le contre stéphanois. Ivan Cardona qui peut centrer très fort devant le but. C'est un centre-tir parfaitement capté par Yevan Diouf, et ça n'est pas Koulibaly mais c'est Charles Van Hout, le Belge, qui va faire son apparition sur la pelouse
avec Jean-Marc Laborderie, le médecin là, chef de Nice, qui a beaucoup discuté. Ça avait l'air de ressembler à une espèce de protocole commotion adapté. J'ai l'impression qu'il lui parlait pour voir s'il répondait un peu à des appels ou à des petits jeux, pour voir au niveau de la tension si tout allait bien. Et donc au final, on avait l'impression qu'il pouvait re-rentrer, finalement non. Et donc c'est Charles Van Hout qui va le remplacer à la 10e minute. Alors pour l'instant, vu que le coup a eu lieu à la 2e, il y a eu un autre arrêt de jeu à la 6e, plus ce moment-là, pour l'instant dans le jeu on n'a rien vu. Ceci explique cela avec cet arrêt de jeu de la 2e et ce changement désormais à la 10e.
Nice n'avait pas besoin de ça, Maxime Chano.
Ah oui, c'est sûr que je pense que Claude Puel n'avait pas forcément préparé un peu un tel scénario, de devoir faire sortir un de ses meilleurs joueurs au bout de la 10e minute. Après, il a un petit peu de matos, entre guillemets, sans être péjoratif, sur le banc, là, avec Charles Van Hout, le Belge, hein, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, hein, qui a fait des bons débuts du côté des Aiglons. C'est vrai que là, cette saison, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment en deuxième partie, où est-ce qu'il a eu un peu moins de temps de jeu. Mais bon, ça montre quand même la qualité qu'il y a sur le banc de touche. À voir comment le joueur belge va vite s'adapter et rentrer dans le jeu. En tout cas, les Niçois vont avoir besoin de lui au milieu de terrain.
International belge Charles Van Hout, avec une sélection, lui qui pensait passer un cap dans sa carrière en signant à Nice l'été dernier, et pourquoi pas briguer une place dans la sélection belge de Rudy Garcia. Et évidemment, cette saison niçoise ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait envisagé. En tout cas, il a l'occasion de se montrer sur le terrain désormais, Charles Van Hout, avec le jeu qui a repris. Deux équipes qui sont à 11 contre 11, Edouard, et le ballon pour les Stéphanois.
Et on va peut-être avoir de la continuité dans les actions, avec peut-être la montée là de Denis Sapir, qui va prendre appui sur Luan Kadek-Bekou, mais qui se relève. Il est tombé, mais Benoît Bastien dit non, tu es tombé tout seul, et Morgan Sanson qui va pouvoir dégagé, mais alors c'est vraiment approximatif, ça va directement en touche. Si on était en rugby, on aurait pu dire qu'il a trouvé une bonne touche, mais on est au foot, du coup la touche, elle est pour Maxime Bernauer, et ça repart avec Gauthier Larsenard.
Et c'est bien un 4-2-3, hein. Jonathan Clauss garde bien sa position de milieu de terrain côté droit, et Antoine Mendy est bel et bien arrière droit, Max.
Ouais, on est sur deux schémas tactiques identiques, en fait, hein, du côté de Saint-Etienne comme du côté de Nice. Voilà, c'est un miroir, entre guillemets. Donc c'est presque du poste pour poste, hein, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, avec évidemment un Jonathan Clauss un peu plus haut, comme tu l'as dit. On l'attendait peut-être dans un rôle de piston droit. Bon, on sait qu'offensivement, il est très intéressant. Il faut que les Niçois profitent absolument de ses qualités offensives, et notamment de ses centres super précis.
Morgan Sanson à la récupération pour le GC Nice. 12 minutes de jeu à Geoffroy Guichard, 0-0 entre les Verts et les Aiglons, et le ballon récupéré par les Niçois avec Melvin Barr. Il peut relancer avec Djouma Ba, et maintenant son capitaine Morgan Sanson, Sofiane Diop qui joue meneur de jeu, donc vrai numéro 10 ce soir, qui décroche un petit peu et qui sert sur sa droite Antoine Mendy.
Mendy avec le pressing de Zorico Davitagili, qui est obligé de repasser derrière avec Ba, puis Opong. On va justement trouver l'ancien Lyonnais Melvin Barr, qui est obligé de revenir derrière, et on a passé de droite à gauche, et on va passer de gauche à droite, ou presque, puisque Mendy là va finalement perdre le ballon, et le bon pressing va nous permettre une action finalement avortée, avec Zorico Davidjashvili face à Morgan Sanson, toujours 0-0.
Ouais, 13 minutes de jeu. Très vite reperdu le ballon, l'attaquant géorgien est le meilleur joueur de Ligue 2 cette saison. Ballon repris par Sofiane Diop dans sa moitié de terrain, on est sur le côté gauche. Sofiane Diop qui repasse par sa défense centrale avec le défenseur Sierra Leonais Djouma Ba, en direction de Jonathan Clauss. Un appui devant lui sur Mohamed Alicho, entouré par trois Stéphanois. Il recule là encore vers Antoine Mendy, et on repasse par la défense centrale avec maintenant Opong
au milieu de terrain. Voilà, il va avoir Van Hout qui touche l'un de ses premiers ballons pour son capitaine Morgan Sanson. Les Niçois là qui commencent à avoir un petit peu de continuité dans leur jeu et les passes, et du coup on change complètement là-bas pour Melvin Barr.
Ouais, Melvin Barr, le joueur formé olympique lyonnais, joué à Saint-Etienne, c'est toujours particulier aussi, hein, évidemment pour Melvin Barr, qui n'a pas droit d'ailleurs à un comité d'accueil tout particulier. Ça fait longtemps maintenant qu'il joue sous le maillot niçois, et le ballon maintenant va être rendu au Stéphanois, parce que Melvin Barr était en position de hors-jeu.
En tout cas, qu'il a dû avoir son petit champ quand même, hein. On a la mémoire assez longue. Par contre, j'ai pas été attentif sur je sais même pas s'ils ont dit le prénom et le nom de Claude Puel.
Non, on n'a pas fait attention, c'est peut-être bon signe. Ouais, c'est peut-être bon signe.
Voilà, ils ont peut-être oublié de le faire.
Max.
Oui, non, je disais qu'en tout cas, la tactique côté stéphanoise est claire, hein. Laisser le ballon et la possession de balle à l'OGC Nice, et puis essayer de contre-attaquer, profiter des transitions offensives, ce qui pourrait être un peu surprenant, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir les équipes à jouer à domicile être un peu plus entreprenantes. Est-ce que c'est une forme de respect de la part de Philippe Montagnier, d'être un peu peut-être patient, je ne sais pas comment on peut exactement dire ça, mais c'est vrai que c'est surprenant. Je m'attendais à une équipe stéphanoise un peu plus entreprenante. Après, ils vont essayer de profiter justement de la vitesse de Lucas Tassin pour essayer de contrer ces Niçois.
C'est un peu le problème, Max, finalement, de ces barrages aller-retour aussi, hein, c'est de savoir à quel point je me livre, à quel point je prends des risques, sachant qu'il y a un match retour dans 3 jours.
Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on avait dit qu'on risquerait de voir un match assez fermé avec peu de buts. J'avais misé d'ailleurs sur un match nul. Je ne serais pas surpris, vu le début de match en tout cas, qu'on ait ce scénario là. Après, ça peut aller très vite aussi, il suffit qu'une des deux équipes marque pour ouvrir un petit peu le jeu, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a vu sur les 15 premières minutes, c'est assez timide de la part des deux équipes.
Allez, 0-0, le quart d'heure de jeu à Geoffroy Guichard. Détour par Roland Garros avec l'entrée en lice de Yannick Sinner. Eric Salio.
Bientôt une demi-heure de jeu sur le Châtrier et Yannick Sinner prend son match très au sérieux bien sûr. 5 jeux 1 pour le numéro 1 mondial qui fait forte impression. On ne connaît pas encore son adversaire potentiel au deuxième tour. Et puis je jette un œil quand même à Félix Auger-Aliassime qui est en difficulté. Il y a un set partout contre Altmaier, mais l'Allemand a le break au troisième set. On rappelle qu'on a quand même perdu aujourd'hui Daniil Medvedev et Alexander Bublik. Deux outsiders.
Merci Eric, à tout à l'heure. Geoffroy Guichard, 16 minutes de jeu entre les Verts et l'OGC Nice. On fait une petite pause et on revient dans un instant dans l'After Live sur RMC. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Jérôme Sillon.
L'After Live en direct de Geoffroy Guichard, le barrage aller d'accession à la Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice. 0-0, 19 minutes de jeu. Édouard Jay, Maxime Chiano sont là pour commenter cette rencontre. On retournera dans un instant à Roland-Garros pour suivre la Night Session et notamment l'entrée en lice du numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Mais pour l'instant, la prudence est de mise ici à Geoffroy Guichard, Édouard.
Oui, part et d'autre, on n'a pas grand-chose. Et on va peut-être avoir quelque chose avec le déboulé là de Denis Sapia. Non, finalement, il a préféré, au lieu de centrer du pied gauche, son mauvais pied, il a préféré essayer de revenir sur le pied droit. Du coup, il y a la défense niçoise, elle est revenue. Et Zurico Davitashvili lui demande de mettre un peu de vitesse. C'est ce qui manque un peu de folie. C'est ce qui manque à Lyon, à Saint-Etienne, ce qui manque à Nice. Et pour l'instant, on a toujours 0-0, un seul tir tout à l'heure de Morgan Sanson, une demi-volée qui est passée largement à côté. Mais de quoi peut-être mettre le feu avec un corner à venir pour les Verts.
Ouais, un corner provoqué par Gadé Bécou avec un centre de la gauche qui a été contré par Charles Van Hout et Zurico Davitashvili devant les Magic Fans va pouvoir tirer ce corner de la gauche vers la droite quand on regarde le but de Yevan Diouf. Ils sont quasiment tous torse nu, les Magic Fans dans leur tribune. Il fait encore très chaud au coup d'envoi de cette rencontre. Le corner de la gauche donc pour le Géorgien Davitashvili, deuxième poteau, la tête de la défense niçoise, la reprise de Boakier des 25 mètres qui passe au-dessus de la cage de Yevan Diouf. La première tentative ou presque stéphanoise dans cette rencontre. On a attendu la 20e minute de jeu. C'était pas mal fait, pas mal tenté de la part de Boakier. Max.
Comme quoi, ouais, non, mais tu vois, on parlait des transitions offensives, comme quoi Saint-Etienne allait laisser le ballon à l'OGC Nice et essayer de capitaliser un maximum les contre-attaques. On doit aussi parler des coups de pied arrêtés dans ce genre de match. Ils sont très, très importants. Là, la première action stéphanoise vient justement à la base d'un corner. Voilà, il va falloir aussi capitaliser les peu d'occasions.
Bon, c'est bien joué ça. C'était bien joué avec la récupération maintenant de Stassin, servi par Boakier. Stassin dans la surface de réparation, il est contré par Melvin Barr alors qu'il y avait peut-être une possibilité de jouer plus vite sur Cardona. Là il y a eu une phase de pression assez haute de la part des Stéphanois et tout de suite ça met un petit peu la panique dans la défense niçoise
avec une touche à venir, toujours 0-0, 21 minutes de jeu pour Melvin Barr côté gauche avec des Verts qui sont bien placés là pour l'ancien Lyonnais. Ça va être difficile de trouver un coéquipier démarqué, surtout qu'il n'y en a pas un qui se... si finalement Van Hout devant lui, mais Melvin Barr, et est-ce qu'il va s'en sortir là? Oui, il va s'en sortir avec avec Sofiane Diop.
Ouais, avec beaucoup de lucidité et de tranquillité aussi là pour faire passer le ballon entre deux joueurs stéphanois qui étaient en train de le presser. Antoine Mendy dans le camp stéphanois sur le côté droit de l'attaque niçoise avec un long ballon en direction de Jonathan Klaus, mais c'est trop dur d'aller le chercher ce ballon. Maxime Bernauer va tranquillement accompagner ce ballon en dehors des limites du terrain et on va laisser Gauthier Larsonneur dégager. Pour l'instant, on ne peut pas dire que Jonathan Klaus soit mis dans de très bonnes dispositions dans ce rôle de milieu offensif côté droit, Maxime. Ouais,
je suis d'accord avec toi. Je pense que le bloc bas stéphanois vraiment l'empêche vraiment d'optimiser un petit peu ses qualités et notamment ses courses vers l'avant. C'est vrai qu'il est un peu discret, Jonathan Klaus, là, sur ce début de match.
Allez, Zurico Davitashvili qui va s'appuyer sur Lucas Stassin qui remet. Ah, mais il a remis un petit peu à l'aveugle. Du coup, eh bien, on a pu revenir avec les Niçois et Morgan Sanson, là, qui fait vraiment un match au milieu de terrain. On voit qu'il est au-dessus des autres. Il suffit de dire ça pour qu'il manque sa transition, mais le contre est favorable. Et les Niçois qui vont pouvoir repartir avec Melvin Barr côté gauche.
Melvin Barr qui donne le ballon à Thiago Gouveia, le Portugais prêté avec option d'achat par Benfica, mais plutôt que de se porter vers l'avant, il préfère temporiser parce qu'il y avait peu de solutions devant lui. Alors il repasse par Charles Van Hout avec maintenant Melvin Barr côté gauche de l'attaque niçoise. On est dans le camp stéphanois et c'est bon, ce petit ballon de Sofiane Diop avec Gouveia qui peut s'entrer devant le but, et Jonathan Clauss qui vient contrer le dégagement de Bernauer. Ça finit à côté du but de Gauthier Larsonneur. La première véritable occasion niçoise avec enfin un joli mouvement coordonné sur le côté gauche et le bon appel de Thiago Gouveia derrière. S'en sortent bien les Stéphanois, Edouard.
Ouais, le contre est favorable, on va dire, parce que ça se finit sous une forme de 6 mètres. Mais on a vu des CSC marqués dans ce type de situation. Si le ballon est moins aérien, peut-être que Gauthier Larsonneur est mis en difficulté, voire battu sur cette action. Mais le ballon était hors cadre et donc les Stéphanois peuvent repartir toujours 0-0 à la 23e minute.
Ça s'ouvre un peu, Max, hein.
Oui, et puis surtout Jonathan Clauss dans une position quand même, tu l'avais dit un peu plus tôt, Jérôme, un peu surprenante. Là, il se retrouve presque numéro 9, lui qui est positionné en tant que milieu droit. C'est vrai que je suis assez surpris, mais bon, écoute... je pense que Claude Puel veut utiliser un petit peu son expérience et surtout sa polyvalence. Voilà, c'est lui qui est allé, en tout cas au début de cette première grosse action de l'OGC Nice ce soir.
La récupération haute des Aiglons avec le ballon pour Gouveia. Morgan Sanson mis au sol à 25 mètres du but de Gauthier Larsonneur. Alors qu'il rebrousse ses chemins en direction de son propre camp, Morgan Sanson provoque la faute, les quelques sifflets de Geoffroy Guichard, et ça va offrir un bon coup franc aux joueurs de l'OGC Nice. Ça va peut-être être un petit peu loin pour le frapper directement au but, mais pourquoi pas, parce que en tout cas on est dans l'axe, légèrement décalé sur le côté droit, et on connaît la qualité du pied droit de Jonathan Clauss. Ouais,
avec Luan Gadegbeku qui pestait un peu sur cette faute, il estimait ne pas avoir commis d'acte d'anti-jeu. Max, qu'est-ce que t'en penses?
Règle générale, ouais, tous les joueurs lèvent toujours les mains quand ils font une petite faute. C'est vrai que bon, là c'est léger. Morgan Sanson joue bien le coup, il tombe une fois qu'il a été touché. Et on voit l'expérience justement de l'ancien joueur du Mans, Morgan Sanson.
Mohamed Ali Chou est son pied gauche, mais plus vraisemblablement Jonathan Clauss est son pied droit. 25 mètres du but de Gauthier Larsonneur, le coup franc pour l'OGC Nice. 25e minute de jeu, 0-0 entre les Verts et les Aiglons. C'est parti pour Clauss, c'est direct, c'est puissant mais c'est imprécis, ça passe au-dessus du but de Gauthier Larsonneur. Est-ce que c'était la bonne option, Max?
J'aurais peut-être pas frappé, après tu l'as dit aussi, hein, il a une super qualité de pied, mais la manière dont il a frappé, un petit peu à la Juninho, hein, pour les puristes, hein, ceux qui savent. C'est vrai que je pensais qu'il peut-être il enroulerait. Voilà, écoute, il a pris coup du pied, le ballon qui monte, mais qui monte juste un petit peu trop et qui termine sa course au-dessus de la barre transversale. Bon, bah écoute, quand on n'arrive pas à se créer d'occasion dans le jeu, bah, parfois sur des coups de pied arrêtés comme ça peut marcher.
Ouais. Voilà, il fallait avoir la laxité de la cheville de Juninho une fois qu'il est tiré dans le ballon, il puisse tourner un petit peu.
Tu convoques tes souvenirs là.
Il a tellement expliqué l'affaire, l'ami Juninho.
Il n'est pas Juninho, voilà, qui veut. Hein,
exactement.
On parle peut-être du meilleur tireur de coup franc de l'histoire, ouais, de la Ligue 1. En tout cas de la Ligue 1 et peut-être même du monde.
Du monde, je peux te poser une colle. Combien de coups francs a-t-il mis dans sa carrière? Il en a mis un sacré paquet quand même. Hein.
44, je crois, sur les 100 buts avec l'OL.
Ouais. Ça pèse.
Ouais, ça aide. Et tous ceux qui, parce qu'à l'époque on avait la chance de suivre aussi les entraînements, tous ceux qu'on voyait à l'entraînement, je citerai pas les noms des gardiens, mais
bon, on les connaît. On peut dire. Voilà,
par exemple, on peut dire que Grégory Coupet n'y était pas.
Ah,
c'était
bien.
Rémi Vercoutre, le numéro 1.
Non, c'était encore Rémi Vercoutre, n'était pas là.
Qui?
Non. Allez, c'est la pause fraîcheur à Geoffroy Guichard. 0-0, 26 minutes de jeu entre les Verts et les Aiglons. On va à Roland-Garros, le tennis, avec Eric Salio.
Ouais, avec Yannick Sinner qui poursuit sa démonstration sur le central. Ça va très très vite, hein. 6-1, 2-1 en seulement 39 minutes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Clément Tabur, malgré toute sa bonne volonté, malgré son excellent jeu de fond de court? Ça va tout simplement trop vite pour Clément Tabur, donc qui va.
Comment
passer...
réagit le public, Eric?
Je pense que le public se dit, oh là là, mais dans une heure on est dehors, quoi. C'est un choix de night session peut-être contestable, parce qu'on pouvait se douter que ce match serait à sens unique. Maintenant, le public peut voir à l'œuvre le numéro mondial, et c'est pour ça que le choix d'Amélie Mauresmo et du diffuseur, donc on sait que c'est Prime Video, Prime Amazon qui a les droits pour la Night Session. prime, voulait peut-être Yannick Sinner après avoir eu Novak Djokovic. C'est vrai que ça fait bien.
Enfin, ça arrange aussi Yannick Sinner de jouer le soir alors qu'il fait peut-être un peu moins chaud, même s'il fait encore chaud.
Il y a ça aussi. Ça va être un vrai débat tout au long de la semaine puisqu'on sait qu'il va faire très chaud. Donc je pense que les joueurs vont se battre pour jouer en night session. Et à ce propos, on connaît l'affiche de la night session de demain. Ce sera Sacha Zverev qui jouera contre le Tchèque Machar. Félix Auger-Aliassime qui est pas au mieux, hein, je vous confirme, hein, puisque il est à 1-7 partout face à l'Allemand Altmaier, mais Altmaier mène 5-3 au troisième set, 5-4 désormais.
Allez, retour à Geoffroy Guichard avec le contre stéphanois, toujours 0-0, 27 minutes de jeu, le ballon pour Boakye qui a devancé Thiago Gouveia, lancé par Bernauer, Augustine Boakye derrière lui, Pedro qui peut centrer de la droite la tête de Charles Van Hout pour éloigner le danger, et maintenant c'est Melvin Barr qui va temporiser, mettre le pied sur le ballon avec l'aide de Thiago Gouveia. Attention, il y a un joueur qui s'est fait mal, je crois que c'est Cardona Edouard qui semble s'être fait un petit peu mal derrière la cuisse.
Effectivement,
ça va aller
mieux, mais on va suivre parce que peut-être une petite crampe. Alors pourquoi pas dès la 28e minute.
Ouais, ça serait surprenant, hein, une crampe après 30 minutes. Là, je peux te dire que la préparation est moyenne. Hein, la part
exactement. T'as raison. T'as tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'il fait tellement chaud et il suffit peut-être d'une mauvaise hydratation. Et puis là, il y a vraiment un faux rythme. Hein. Dans ce début de match, sur ces 10 premières minutes, parce que déjà l'échauffement a fini bien un bon quart d'heure avant tout le protocole. Dès la 2e minute, il y a un arrêt à la 4e. Finalement, il y a un changement à la 9e. Voilà, ça fait un faux rythme. Voilà, c'est peut-être pas forcément une crampe, mais juste une petite alerte. En tout cas, tout va bien. Là, il ne se tient plus la cuisse, tout va bien.
Et si on peut faire un petit peu le parallèle, messieurs, sur la pause fraîcheur, c'est un peu ce qui m'inquiète, moi, pour la Coupe du Monde, hein, parce qu'il va faire très chaud, on va avoir une pause fraîcheur. Donc, en défi, il va avoir quand même beaucoup d'arrêts de jeu. Et c'est vrai que là, on le voit, hein, pour le rythme, c'est quand même pas top parce qu'on va pas se mentir, là, sur les 30 premières minutes, on n'est quand même pas sur une grande rencontre, hein, niveau rythme. Hein.
Bah, il faut espérer peut-être que justement les pauses fraîcheurs permettent aux joueurs de mettre un peu plus de rythme juste après.
Après, tu sais, Jérôme, le temps de revenir de la pause fraîcheur, il te faut une ou deux minutes pour re-rentrer dans le match. Quand tes joueurs t'observent aussi un petit peu le chrono, donc une ou deux minutes avant la pause fraîcheur, bah, tu lèves un peu le pied. Donc si tu cumules tous ces arrêts. Bon, pour le rythme, je suis pas convaincu que ça soit la meilleure chose, mais bon.
Attention avec cette reprise, c'était Opong ou Djoumaba plutôt, c'est Djoumaba qui a tenté sa chance après cette longue touche d'Antoine Mendy, mal dégagée par la défense stéphanoise. Le ballon est arrivé sur Opong, sur Djoumaba, pardon, je vais y arriver, et sa reprise du pied droit est passée au-dessus. S'est retrouvé en bonne position là, Max. Alors évidemment, c'est pas la position préférentielle d'un défenseur central.
Ça, on voit bien que c'est un def central, hein, défenseur central. Et on va peut-être en étonner certains, mais vous savez que quand vous êtes défenseur, en règle générale, vous vous entraînez jamais à frapper au but. Et vous entraînez plus à défendre. Donc c'est vrai qu'il n'a pas forcément de geste, quoiqu'il l'avait quand même bien pris. Mais bon, le ballon passe au-dessus du but du gardien stéphanois.
Allez, le ballon pour les Verts maintenant sur leur côté gauche avec Denis Sapia. On va rendre ce ballon justement à Djoumaba, Jonathan Klaus qui rate sa passe, mais ça profite à Mohamed Ali Chou, la talonnade de Mohamed Ali Chou en direction de Jonathan Klaus. C'est le ballon qui a été repris par Luan Gadebekou. La touche à venir pour l'AS Saint-Etienne dans sa moitié de terrain. On fait une petite pause sur RMC dans l'Afterlife. 0-0 entre Saint-Etienne et Nice. C'est le barrage aller d'accession à la Ligue 1. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC, l'Afterlife.
Jérôme Sillon.
L'Afterlife en direct de Geoffroy Guichard pour le barrage d'accession à la Ligue 1 entre Saint-Etienne et Nice avec Edouard G, avec Maxime Chano. 0-0, 34 minutes de jeu ici à Saint-Etienne. Et le ballon d'attaque pour Lucas Tassin avec Gadebekou sur le côté gauche de l'attaque stéphanoise. La faute de Djoumaba et le coup franc très intéressant à venir pour l'AS Saint-Etienne. On est à l'entrée de la surface de réparation du gym.
Ouais. Est-ce que ça va être oui, vas-y Maxime.
Non, j'ai dit un coup franc très très intéressant, en effet, hein. On l'a dit plus tôt, mais ça c'est des opportunités que les Stéphanois doivent absolument capitaliser, hein, parce que là le coup franc se trouve juste à l'angle de la surface entre guillemets, mais c'est vrai que c'est pas très très bien défendu de la part des défenseurs niçois quand même. Dans la couverture, ils ont été très très moyens.
C'était Opong, hein, qui a fait la faute et non pas Djoumaba. En attendant, qui tire les coups francs d'habitude, Edouard?
Zuriko Davitashvili, il est pas mal dans cet exercice. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'ils vont combiner? Est-ce qu'ils vont trouver un Gadebekou? Parce qu'on peut donner cette balle à justement Gadebekou qui est dans l'arc de cercle. On rappelle que ce coup franc est sur la ligne parallèle à la touche de la surface de réparation. C'est un mini corner largement ouvert. Zorico Tachvili qui va tout seul là, non?
Ouais, j'ai l'impression que c'est lui qui va tirer. Il y a deux joueurs dans le mur niçois, Mohamed Alichaud et Thiago Gouveia. Attention, danger pour le gym avec ce coup franc très très bien placé pour les Verts. Zorico, David Tachvili, le coup de sifflet de Benoît Bastien. Ah, attention, il est appelé par l'assistance vidéo parce que c'est bien ce que je pensais. Le début de la faute était dans la surface de réparation. Ouais. La faute se termine à l'extérieur. Est-ce que c'est impossible le pénalty que Benoît Bastien est en train d'aller revoir? Peut-être, parce que le début de la faute, Max, c'était dans la surface. Hein.
Bah écoute, t'as de très bons yeux, Jérôme, hein, parce que j'ai la vidéo là devant les yeux, et en effet, le début de la faute a l'air dans la surface de réparation. Ouais. Donc ça voudrait dire un potentiel pénalty.
Le contact, en tout cas, pied droit de Opong contre le pied droit de Gadebekou, c'est dans la surface, ça c'est sûr. Donc très logiquement ça sent le pénalty.
Par contre, défendre de cette manière dans la surface de réparation avec le joueur stéphanois et dos au jeu, c'est incompréhensible. On parlait de manque d'expérience de la défense niçoise. On attend de voir ce que l'arbitre va décider, mais
c'est
je pense
maintenant,
qu'il y a pénalty.
C'est pour maintenant Benoît Bastien. Qu'est-ce qu'il va décider? Est-ce qu'il a vu quelque chose d'autre? Il a convoqué Morgan Sanson et Gauthier Larsonneur, les deux capitaines. On est tout près des bandes touches, on est très loin de l'action. Que va décider Benoît Bastien? Est-ce qu'il a vu quelque chose d'autre que ce contact? Sofiane Diop a l'air de taper des mains. Morgan Sanson également. Je ne pense pas qu'il y ait pénalty.
Il va
rester là-dessus. Il va rester, je pense, sur le fait que la faute se termine à l'extérieur de la surface de réparation. Il n'y a pas de pénalty.
Ouais, c'est limite. Hein, parce
et il n'y a pas de coup franc non plus. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il prend le ballon, Benoît Bastien.
Ah, il n'y a même pas de coup franc.
Il n'y a même pas de coup franc, il n'y a pas de faute du tout, alors qu'il y a contact, c'est quand même incroyable ça.
Ah oui, c'est, je peux vous dire, j'ai le ralenti devant les yeux, il y a clairement un contact du joueur niçois sur le joueur stéphanois. Hein.
Alors que Gadebekou accentue un petit peu sa chute peut-être. Et là, il y a un entre-deux, mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme il ne donne pas péno, il y a une balle à terre. Ouais. Bon, alors là, c'est un point de règlement que je ne maîtrise pas.
Ouais. C'est comme dans la cour de récré, messieurs.
Quand on ne veut pas prendre de décision, allez.
Ah non, il rend le ballon au Stéphanois, Benoît Bastien. Rend le ballon, mais à terre, au Stéphanois, il n'y a même pas de coup franc.
Ah ouais, d'accord.
C'est incroyable ça.
Incroyable.
Dans la cour de récréation, on a l'école.
37 minutes de jeu, 0-0. Les Verts qui vont pouvoir peut-être s'organiser avec Kevin Pedro pour Ivan Cardona. Le centre, finalement, récupéré par Evan Diouf. Moment un peu surréaliste, hein.
On risque d'en reparler. Hein. Ouais. On risque d'en reparler si le score en reste là et surtout si les Verts venaient à ne pas monter en Ligue 1 à l'issue de ce barrage aller-retour.
Oui, parce que cette action, on rappelle, hein, il y avait faute claire. Mais la discussion, on pensait qu'elle était uniquement là-dessus. Est-ce qu'elle est à l'intérieur de la surface ou à l'extérieur? Finalement, pas faute.
Ouais, bah alors là, il va falloir nous expliquer. Il faudra quand même qu'on pose la question aux arbitres et à Benoît Bastien après la rencontre.
Et derrière, hein. Ballon à terre, et les Stéphanois qui ont pu continuer l'action.
Ouais, peut-être
vraiment bizarre.
Peut-être qu'il a insinué que le joueur Stéphanois en avait un peu rajouté, mais je peux vous dire, j'ai la vidéo devant les yeux, qu'il y a quand même contact. Alors après, bon, on va faire confiance.
Non, mais s'il y a simulation, Maxime, c'est carton jaune dans ces cas-là.
Voilà,
on peut pas mettre deux jaunes grâce à l'assistance vidéo. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas, mais bon. Ouais. Très très bizarre. Ça n'empêche pas les Verts de repartir à l'attaque. Avec Lucas Tassin côté droit qui peut centrer. Ballon qui a été contré par la défense centrale et par Opong. Le dégagement de Melvin Barl, mais le ballon est sorti. Il a trop tardé à dégager. La touche à venir très vite jouée par Augustine Boaki. Attention, faut être concentré vers Lucas Tassin. Lucas Tassin, est-ce qu'il a touché ce ballon? Non, ce sera un renvoi au 5m50.
C'est mal joué là du côté des Verts parce qu'il y avait vraiment mieux à faire sur cette touche. Ils ont décidé de jouer très rapidement. Lucas Tassin était sur le ballon. Alors, est-ce qu'il a perdu de vue éventuellement un coéquipier qu'il voulait servir? En tout cas, ce ballon finalement est allé en 6 mètres. 40 minutes bientôt, 0-0. Et ce, pour l'instant, ce fait de match. De la 37e minute, coup franc, siffle départ, potentiel pénalty, et au final rien, et une balle à terre.
Tous les états, c'est vrai.
Ouais, là, c'est... En une minute, on a tout.
Avant de vivre l'intégralité des 5 dernières minutes de cette première période, détour par Roland Garros, Eric Salio, où on est Yannick Sinner.
Ah, ça déroule pour Yannick Sinner, hein. C'est pas vraiment une surprise, mais je pense qu'il a pas envie de passer trop de temps sur le court central. 6-1-4-1 pour le numéro mondial, totalement impuissant. Clément Tabur, c'est un niveau auquel il n'est pas habitué. Voilà, tout simplement, la balle va trop vite. C'est un joueur de challenger, hein, Clément Tabur. Bon, ça va lui permettre de vivre une belle expérience. Il a pu inviter plein d'amis dans la boxe, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. 2-7-1, sinon pour Altmaier, l'Allemand, face à Ogier Elassim. Altmaier, je vous en parle parce que c'est l'un des rares joueurs à avoir battu Yannick Sinner ici à Roland-Garros. C'était il y a quelques années, un match énorme, okay, où il avait sauvé une balle de match en plus.
Le corner pour l'OGC Nice, ici à Geoffroy Guichard, alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Le corner de la gauche, quand on regarde le but de Gauthier Larsonneur, Jonathan Clauss pour le frapper, enroulé avec la tête d'Opong, le choc tête contre tête avec Lucas Tassin dans la surface de réparation, et Kodjo Pepra Opong reste au sol dans la surface de l'AS Saint-Etienne. Il semble se tenir la tête, il a très mal.
Et pressing des Niçois qui vont demander à peut-être un potentiel pénalty. En tout cas pour l'instant, Opong qui a du mal à se relever.
Ah ouais, il y a le pied. Oh, c'est le pied de Lucas Tassin, c'est pas la tête de Lucas Tassin, c'est le pied droit de Lucas Tassin qui vient heurter la tête derrière d'Opong.
Ouais. En effet, tu as raison. Et Tassin, on voit bien que c'est pas un défenseur, il est au marquage d'Opong et au lieu de prendre lui-même sa tête, il lève le pied et ça touche la tête du défenseur niçois. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit quelque chose, messieurs, sur cette action.
En sachant qu'il a mis la tête au niveau du pied, non?
C'est surtout le pied de...
C'est le pied qui est monté à la tête.
Les deux, mon capitaine, les deux. Le pied est monté, la tête s'est baissée. Et donc, du coup, ça donne encore une situation litigieuse pour Benoît Bastien et pour ses assistants, et notamment ses assistants vidéo. Qu'est-ce qu'on va décider? Pour l'instant, on est prévenu de rien.
Ça va pas
on
aider
voit
pour
quand
le rythme,
même Benoît Jérôme. Bastien mettre le doigt sur l'oreille.
Ouais, ça va pas
en tout cas,
pour
je l'ai vu furtivement.
Match,
hein. Non. Là, c'est là, il y a une mini pause fraîcheur parce que pour ceux qui veulent, eh bien, ils viennent vers le banc pour prendre un petit peu d'eau. On va... En tout cas, potentiellement, il peut y avoir quelque chose. Hein. Non, il n'y a rien, visiblement, dit Benoît Bastien. Je vois avec les mains, il n'y a rien.
Ah, ça aurait été terrible pour les Verts de s'être vu refuser un pénalty tout à l'heure.
Donc,
pour une possible faute sur Gadé Bécou. Et là, les Niçois qui n'en bénéficient pas non plus. Pourtant, c'est un contact pied-tête dans une surface. Si c'est en dehors de la surface, c'est coup franc à tous les coups.
Ouais, mais bon. Je suis entièrement d'accord avec toi. Honnêtement, là, c'est assez surprenant. Il y a presque plus faute, peut-être. Attention, je ne suis pas arbitre, hein, parce que deux fois, j'ai dit qu'il y avait pénalty. Et M. l'arbitre a un sifflet au cas. Alors, est-ce qu'il ne compenserait pas justement le premier pénalty? Mais c'est vrai que là, il y a quand même aussi un sacré contact encore.
Bon, on va avoir pas mal de temps additionnel. En attendant, le jeu est à repris avec ce ballon pour Luan Gadebekou, David Tachvili dans le camp de l'OGC Nice. On est sur le côté gauche de l'attaque stéphanoise. David Tachvili cherche un appui sur Stassin. Il se fait contrer par Morgan Sanson. Le dégagement de Jonathan Clauss directement sur Thiago Gouveia. Ça peut repartir pour le gym.
Avec sur le côté Morgan Sanson qui passe la ligne médiane. Pour l'instant, il insiste au milieu de quatre verts. Il va conserver le ballon. Non, finalement, il va le perdre avec Boaki. Et là, qui va. Kanté qui va donner justement à Augustin Boyakier.
Ouais, Boyakier avec Cardona qui laisse ce ballon filer entre ses jambes en direction de Kevin Pedro. La mauvaise passe du latéral formé à la SSE. Et c'est un ballon de contre pour Thiago Gouveia. Derrière peut-être la faute de Boyakier. Oui, sur Thiago Gouveia. Ce sera un coup franc au niveau de la ligne médiane en faveur de l'OGC Nice. C'est Sofiane Diop qui le joue très vite avec Morgan Sanson.
Avec Jonathan Clauss. Jonathan Clauss qui va retrouver Diop, qui va remettre pour Mendy qui monte dans la surface de réparation. Il emmène un petit peu trop loin son ballon et Bernauer qui sauve le corner.
Ouais, il le fallait parce qu'il y avait une possibilité de centrer en retrait là pour Antoine Mendy. Ça manquait un petit peu de spontanéité. La relance stéphanoise vite interrompue par Charles Van Hout. La récupération dans le camp des Verts avec Jonathan Clauss. La passe aveugle pas très précise, dégagée par Bernauer
de part et d'autre, hein, dans les... Je ne sais pas ce que tu t'en penses, Maxime, mais sur des gestes qui paraissent faciles, il y a vraiment des deux côtés un peu les mêmes fautes techniques.
On est clairement pas sur un grand match niveau technique. Là, je pense qu'on est d'accord, c'est pas un match de Champions League. Mais non. Bon, l'enjeu est peut-être tellement important que ça crispe les joueurs, je ne sais pas, mais il y a énormément de déchets de la part des deux équipes, ouais, je suis d'accord avec toi.
5-6 minutes de temps additionnel minimum.
Oh oui, hein. Je pense qu'on sera dans les 5. Je pense que t'es dans le coup. D'ailleurs, on me dit de te féliciter, mon cher Edouard, parce que tu connais ton Juni par cœur. 44 coups francs marqués en carrière direct, c'est bien ça. C'est parfait. Quel
club,
talent.
Club et sélection compris, hein.
Non, non, avec Lyon.
Ah, seulement avec Lyon. Sur donc il a dû en marquer quelques-uns aussi avec le Brésil, j'imagine.
Oui, oui, je pense.
Eh ben, quel, là, quel joueur.
J'ai la stat lyonnaise.
Ah, ouais, alors la stat brésilienne. Il n'a pas dû en marquer tant que ça non plus. Hein. Il n'a pas, peut-être pas la, 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 comment dire, la carrière en sélection qu'il aurait mérité, Juninho, à une époque où le milieu de terrain au Brésil, c'était quand même quelque chose et la concurrence était redoutable.
Ouais, mais peut-être qu'à Vasco ou à Recife, il en a marqué sûrement d'ailleurs. Hein, mais
peut-être même au New York Red Bull, messieurs, parce qu'il a terminé en MLS.
Exactement, exactement. Il a dû en marquer aussi. Et je crois qu'à l'OL, ça fait quand même quelques mois qu'il n'y a pas eu de coup franc marqué directement. Il est loin.
On va demander à Najib de vérifier, notre producteur. Allez. 6 minutes de temps additionnel ici à Geoffroy Guichard. On vient d'y entrer. Toujours 0-0 entre Saint-Etienne et Nice. La longue touche de Melvin Barre. Le ballon revient sur Thiago Gouveia. Dans la surface de réparation stéphanoise, Sofiane Diop qui peut centrer. Le ballon est contré par le Cardinal. Corner à suivre de la gauche quand on regarde le but de Gauthier Larsonneur.
6 minutes de temps additionnel, on y est rentré depuis une petite minute. Le corner à suivre donc pour les Niçois. 39 772 spectateurs pour être précis, mon cher Jérôme.
Magnifique dans cette belle ambiance, même si ils n'ont pas encore vraiment mis le feu, hein, les supporters des Verts. Le corner de la gauche quand on regarde le but donc de Larsonneur. C'est parti pour Jonathan Klaus. Ballon convoité par Djoumaba, dégagé par Kevin Pedro. Mohamed Ali Chou avec Melvin Barre. Il va remettre ce ballon dans la surface, mais beaucoup trop fort. Et c'est donc Larsonneur qui va s'en emparer et dégager très loin devant.
Ah ouais, mais alors là c'est complètement manqué. Il a voulu, il s'excuse d'ailleurs auprès de ses coéquipiers. Il a voulu jouer la rapidité. Mais là, la rapidité n'a pas été d'une précision redoutable. Et du coup, ça se termine en touche. Mais la touche, elle est finalement pour les Verts. Donc finalement, ils vont pouvoir repartir avec Maxime Bernauer. Bernauer qui va passer la ligne médiane. Et il va trouver qui juste à côté de lui? Zurico Davitashvili.
Ouais, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux peut décaler. Maintenant, Denis Sapia, c'est bien joué. Le centre devant le but. Coupé. Intercepté par Yevan Diouf alors que Lucas Tassin convoitait ce ballon, alors qu'Ivan Cardona l'espérait au deuxième poteau. Et Yevan Diouf s'est bien interposé et il a pu relancer avec maintenant Thiago Gouveia dans la moitié de terrain stéphanoise. On est sur le côté gauche. Gouveia va repasser par Charles Van Hout. C'était bien joué la Max avec la belle proposition de Denis Sapia.
Oui, tu l'as dit, le Géorgien, hein, qui montre un petit peu toute son élégance et sa classe technique, hein, qui arrivait à se démarquer du joueur stéphanois pour lancer dans la petite profondeur à Pia qui malheureusement a loupé son centre. Mais c'est vrai que voilà, le talent individuel stéphanois et notamment de la part du Géorgien est quand même remarquable.
77 coups francs directs en carrière pour Juninho, me dit Najib. 77, donc 44 avec Lyon du coup.
Voilà.
Donc ça veut dire 33 en dehors de Lyon.
C'est ça.
Voilà, pour ceux qui calculent. Bah,
en sachant qu'il est arrivé à 26 ans à Lyon, donc il a eu une grande carrière déjà brésilienne juste avant et notamment à Recife et à Vasco. Voilà.
Alors le dégagement de Gauthier
3 minutes, hein, dans le temps additionnel.
Il en reste 3. Le dégagement de Larsonneur, toujours 0-0. Ballon convoité par Cardona. Finalement Melvin Barre va l'accompagner en dehors des limites du terrain. La touche à venir pour le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.
Et on va repasser par Evan Diouf qui va dégager. Franchement là on a l'impression que les 22 acteurs attendent la pause pour se refaire un peu une santé. Jonathan Klaus là qui pèse sur ses coéquipiers parce qu'il n'attendait peut-être pas ce type de ballon. Alors les Verts vont pouvoir repartir, mais Kadek Beko est obligé de repasser derrière avec Julien Le Cardinal et Kevin Pedro. Pour l'instant, les Verts qui sont toujours dans leur propre camp. Et on revient sur les défenseurs centraux, Le Cardinal qui va repasser avec son gardien.
Ouais, les deux anciens joueurs du Stade Brestois, Larsonneur et Le Cardinal. Bernauer qui lui évolue au Dynamo Zagreb avant d'arriver à Saint-Etienne, l'ancien joueur du Paris FC également, Maxime Bernauer. Ballon pour Zurico Davitashvili, repris par Charles Van Hout. Il l'a touché, Davitashvili. Charles Van Hout, coup franc contre le gym. Ballon pour les Stéphanois avec le Cardinal pour le frapper très vite dans le rond central à gauche en direction de Denis Sapia qui se propose le bon contrôle, pied droit, mais il est repoussé par l'impact physique de l'international sénégalais Antoine Mendy.
Et on va juste rapidement jouer avec Jonathan Klaus, hein, qui perd le ballon sur Gadek Bekou qui fait vraiment un joli match au milieu de terrain. Il récupère beaucoup de ballons. Il y a un petit peu de déchets dans ses ballons offensifs, mais en tout cas à la récupération il est très précieux. Zurico Davitashvili côté gauche.
Ouais, Davitashvili qui déborde, qui tente de dépasser Antoine Mendy. Un appui sur Lucas Tassin, serré de près. Il a réussi à trouver de l'air de l'autre côté avec Kevin Pedro. 25 mètres, la tentative, elle est contrée par Thiago Gouveia et empêché de sortir ce ballon par un très vigilant Yevan Diouf. La relance maintenant avec Melvin Barr. Les dernières secondes de cette première période dans le temps additionnel. Toujours 0-0. Ballon pour Morgan Sanson.
Qui va trouver Jonathan Clauss sur la ligne médiane avec Claude Puel qui demande de jouer vite et devant. Et il joue doucement et derrière. Il va repasser avec
Hopkins. Il doit se mouiller la nuque quand même, Claude Puel, par rapport à l'équipe, par rapport aux équipes qu'il a eues dans sa carrière de manager.
Et là, Jonathan Clauss est devant lui. Wow. Il lui fait les gestes. Joue vite devant. Il joue doucement derrière. Magnifique.
Peut-être qu'il n'a pas compris les consignes.
Ouais, il n'a pas compris.
Allez, Clauss, il a empêché ce ballon de sortir là. Un ballon de Gouveia, une sorte de transversale. On est dans le camp stéphanois, on est sur le côté droit. La mauvaise passe encore de Charles Van Hout qui va directement en touche. Festival d'imprécision et la remise en jeu pour Denis Sapia.
Ouais, c'est pas le meilleur match pour le dernier de la saison à Geoffroy Guichard dans tous les cas de figure. C'est vrai qu'on avait déjà eu face à Rodez, ça n'avait pas été un grand niveau, sauf la séance de tir au but. Là, de toute façon, on sait qu'on n'aura pas de séance de tir au but. Hein, donc, si on veut du spectacle, il le faut avant, mais on ne le retiendra pas, ce spectacle, dans les 45 minutes initiales.
Ouais, la belle passe en profondeur de Morgan Sanson. Cherchait Mohamed Ali Chou à la tête de Bernauer et c'est la mi-temps. Ici à Geoffroy Guichard, 0-0 entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice dans ce barrage aller d'accession à la Ligue 1. Le barrage retour, on vous le rappelle, ce sera à vivre vendredi soir à 20h45 en intégralité sur RMC. Dans un instant, on analyse cette première période avec vous, les supporters stéphanois, les supporters niçois. Appelez-nous au 32-16 au standard de RMC et avec Maxime Chano. Et puis on va jouer également dans quelques instants. Détour par Roland-Garros avec Eric Salio et l'entrée en lice du numéro 1 mondial.
L'entrée en lice très tranquille de Yannick Sinner après 65 minutes de jeu. L'Italien est tout près de mener déjà 2-0, 6-1, 5-2. Clément Tabur, je le répète, hein, mais bon, il fait de son mieux, mais c'est un garçon qui n'est pas habitué à ses hauteurs, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que le public assiste en silence à cette démonstration de l'Italien qui, au deuxième tour, on peut déjà anticiper, affrontera un Argentin, Juan Manuel Cerundolo. Hein, c'est pas le Francisco, hein, c'est le frère, il est gaucher celui-là. Et donc ce sera dans deux jours et on verra si ce sera la night session. Parce qu'il a très, très envie de jouer au frais, Yannick, avec sa peau de bouquin.
Merci Eric, à tout à l'heure, l'homme des montagnes Yannick Sinner, l'homme du Sud-Tirol, le Sud-Tirol italien où l'on parle également allemand, tout proche de l'Autriche. Dans un instant, on revient ici à Geoffroy Guichard, 0-0 donc à la mi-temps entre Saint-Etienne et Nice, supporter niçois, supporter stéphanois, le 32-16 est ouvert, à tout de suite.